Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dieu s'intéresse-t-il à ma vie de couple? Tel aurait pu être le titre de l'émission de ce matin si les plus anciens avançaient dans leur vie conjugale avec foi, courage et, on l'espère, tendresse. Les plus jeunes, les chrétiens, ont eu une boussole encore peu connue, la théologie du corps de Jean-Paul II, Jean-Paul le Grand, Saint Jean-Paul II, comme on l'appelle aujourd'hui, en effet, comme expliciter l'intention de Dieu sur l'amour humain, une grande, une très grande œuvre qui mérite d'être mieux connue, tant elle peut aider tout à chacun à comprendre qui il est, ce qu'il est appelé à vivre, mais aussi parfois pourquoi ça passionne. Patine, pour dire les choses plus trivialement. Oui, l'Église est experte en sexualité, lancerait certainement Taquine, mon invité de ce matin, tout un programme. Le don de soi à l'école de Jean-Paul II, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler autour du plateau, Aude Surami, vous êtes vice-doyenne et maître de conférence à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse et spécialiste de Jean-Paul II. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'avoir fait un détour, même si vous n'êtes pas très loin. On sait vos agendas bien chargés à l'Institut catholique de Toulouse. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette émission sur ce thème. On en parle de temps en temps. On avait eu, je crois, il y a 2 ans, Semaine, qui est, on va dire, un des grands vulgarisateurs de la pensée de Jean-Paul II en France, qui a écrit un certain nombre de livres. Ce matin, on est avec vous donc pour parler du don de soi à l'école de Jean-Paul II. Ma première question, très triviale, est-ce que vous avez l'impression de passer votre vie au-dessus ami, lors de vos cours et différentes conférences, à faire découvrir, au moins aux chrétiens, une pensée qui est, j'allais dire, presque pas révolutionnaire, mais en tout cas extrêmement innovante et puissante, et que peu de gens connaissent? Est-ce votre sentiment?
J'essaie en tout cas, et c'est pas seulement les chrétiens, c'est aussi les non-chrétiens, parce que ce que Jean-Paul II, Carole Wojtyła a dit sur le don, n'est pas seulement du point de vue théologique, mais aussi du point de vue tout simplement philosophique, et du point de vue de ce qu'on observe dans la nature.
Est-ce que vous avez quand même souvent l'impression que les gens débarquent et découvrent une pensée extrêmement puissante?
Oui. Oui, ils s'attendent pas à tout cela.
Alors, on va se lancer, on va commencer par essayer de définir ce qu'est le don, puisque c'est l'angle d'attaque qu'on a pris. Alors, dans ce que vous avez bien voulu me faire suivre, vous commencez en partie par citer saint Thomas d'Aquin, en expliquant qu'il y a, on va dire, deux dimensions nécessaires dans le don qu'il faut trouver à lier. Est-ce qu'on peut commencer par ça? Si j'ai bien compris, c'est principe et terme.
Oui. Alors, pour qu'il y ait don, prenons un exemple, je fais un cadeau à quelqu'un. Si je fais un cadeau à quelqu'un, pour qu'il y ait cadeau, il faut que je prenne l'initiative de faire ce cadeau, que je trouve au principe, au point de départ de ce cadeau, et que qu'un autre, donc un deuxième acteur du don, accepte de recevoir ce cadeau. Si je prends une initiative et que l'autre n'accepte pas de recevoir mon initiative, je ne peux pas dire qu'il y a eu don. Et ça, c'est valable pour tout acte chez Thomas. Tout acte doit être considéré ou du point de vue de son initiative ou du point de vue de son terme, du point de vue de la réception. C'est pour ça que l'acte doit être envisagé soit comme action, s'il est envisagé du point de vue de l'initiative, ou comme passion, réception, s'il est envisagé du point de vue de son terme. Et je crois que c'est très important dans notre société d'aujourd'hui, qui est très activiste, qui n'envisage les choses que comme action. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai étudié l'ouvrage de Wojtyła qui s'appelle « Personne et acte », j'ai compris dans mes premières lectures qu'il s'agissait de personne et action. Non, il s'agit de personne, action et passion ou réception de l'acte.
Alors, je le dis pour faire un tout petit peu de pédagogie, hein, on va s'interroger donc dans la première partie un peu sur la, enfin pas un peu, on va essayer de, vous allez essayer de nous définir donc ce qui est le don, ce qui est, on va dire, l'appel propre à l'homme dans la manière de le vivre. On essaiera dans la deuxième partie donc de parler peut-être des différences hommes-femmes quant au rapport au don. Et puis à la fin, on verra le don, on va dire, racheté ou à la lumière du Christ. Alors, si on continue la définition, vous dites, alors moi j'avoue que ça m'a un petit peu surpris, c'est qu'en fait, quelque part, une des définitions du don, c'est aussi qu'il doit être irrévocable. Il n'y a pas de don s'il n'est pas irrévocable.
Si je fais un cadeau à quelqu'un, ce cadeau, il est pour toujours et je ne peux pas le reprendre. Et ça, c'est la philosophie basique qui naît naturellement presque dans le cœur de l'homme. Et on le voit chez les petits-enfants maternels à partir de 3 ans. Donner, c'est donner et reprendre, c'est voler. Donc, effectivement, ce don, il est, s'il est vraiment, si quelque chose est vraiment donné sincèrement, si ce don est vraiment reçu sincèrement, il est pour toujours.
Oui, on... Allez-y, pardon,
oui, en revanche, effectivement, ça pose la question, est-ce que ce don est véritable? Est-ce qu'il est sincère? Sincère, ça veut dire sincère. Sincère, ça veut dire... quand on parlait de quelque chose de sincère, autrefois, on parlait du miel qui était vendu sans cire sur les marchés. S'il était vendu sans cire, s'il était vendu de manière honnête, dans l'intérêt de celui qu'il recevait. Si il était vendu avec cire, c'était pas un don honnête. Donc, ce don, il doit être sincère pour être véritablement don et pour être aussi pour toujours. Si j'ai pris une initiative du don et que mon don n'a pas été reçu, on ne peut pas dire qu'il y ait don. Donc c'est quelque chose de nul. Et c'est sur cette base que l'Église dira que tel ou tel mariage, par exemple, peut être nul. Parce que ou l'initiative n'a pas été sincère ou la réception du don n'a pas été là.
Parce que souvent, donc, on parle sur ce sujet un peu des quatre piliers du mariage. Je ne vais pas les citer, mais liberté, indissolubilité. Et voilà, vous allez m'aider pour trouver les deux autres. Mais souvent, en fait, derrière ces quatre valeurs, ou enfin ces quatre réalités auxquelles il faut que tout son être souscrit au moment du mariage, en fait, se joue une question de don. C'est l'Église va jusqu'à dire en fait que le don n'était pas véritable parce qu'il n'a pas été reçu.
Je suis pas experte en tant droit canonique, je suis pas non plus théologienne, je suis seulement philosophe, mais évidemment, la grâce surnaturelle, elle est reçue dans la nature, et il faut que ce don, disons, naturel, soit effectif pour que la grâce soit reçue. Donc, effectivement, pour qu'une personne se donne entièrement à une autre, il faut qu'elle puisse poser un acte libre, ce qui suppose la connaissance d'elle-même, parce que je ne peux pas donner ce que je ne connais pas, ce qui suppose la possession de soi-même. Je ne peux pas donner ce que je ne possède pas et je ne peux pas posséder ce que je ne connais pas. Donc il faut une certaine maturité, ne pas être complètement mu par ses pulsions ou ses passions, mais les intégrer à la hauteur de sa personne pour pouvoir poser un acte libre. Donc déjà, l'acte libre, poser un véritable acte libre, c'est difficile. Et la société actuelle ne favorise pas forcément le fait que l'on puisse être éduqué à poser de véritables actes libres. Et ensuite, quand bien même je pose un acte libre, il faut que je me connaisse moi-même, il faut que je connaisse l'autre en face de manière suffisante et connaître aussi qu'il y a des choses qui m'échappent en lui et qui m'échapperont toujours. Puis savoir s'il est honnête, si mon intelligence est trompée, c'est-à-dire que si la personne est présentée comme un honnête homme alors qu'en fait il est un escroc, mon intelligence est dans l'erreur. Et je ne peux pas dire que moi je pense me donner à quelqu'un qui est un honnête homme et il est en fait un escroc. Donc là aussi, finalement, je n'ai pas les conditions pour exercer ma pleine liberté parce que mon intelligence est dans l'erreur.
À propos du don, si on continue cette définition exigeante mais bien nécessaire, donc le don, une action qui a un terme et il faut donc que cette action soit reçue, hein, je le redis avec mes mots, le don doit être irrévocable. Vous utilisez aussi une autre expression, vous parlez d'une honnête utilité du don. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expression ?
Cette expression, disons qu'elle se, y a plusieurs, on pourrait parler de plusieurs formes de dons qui sont fonction de plusieurs formes d'amour. C'est ce qu'explique Carole Wojtyła dans Amour et responsabilité.
Carole Wojtyła, donc, était le nom de
Jean-Paul II avant qu'il soit pape. Il peut y avoir un amour de concupiscence ou un amour de convoitise ou encore un amour utile, ça veut dire la même chose. C'est le fait que je veuille l'autre comme un bien pour moi. Et là, il peut y avoir des mascarades de dons, mais qui ne sont pas un don sincère et qui ne sont pas un don honnête. Pour que le don soit sincère et honnête, il faut qu'il y ait un amour de bienveillance. Ça veut dire que je veux du bien à l'autre et le bien de l'autre, à tel point d'ailleurs que le bien de l'autre va devenir mon propre bien. Et donc, finalement, ce qui m'est le plus utile, et donc mon intérêt, c'est le bien de l'autre. Et alors, Cet amour de bienveillance, il n'est pas désintéressé au sens strict. Il est intéressé, mais il est intéressé par l'honnête intérêt du bien. C'est pour ça que lorsque Jean-Paul II reprend Gaudium et Spes, dont il est lui-même l'auteur, ou le principal auteur.
Donc grand texte du Concile Vatican II.
C'est le leitmotiv, disons, de tout son pontificat. L'homme ne peut se trouver que dans le don sincère de lui-même. La traduction d'ailleurs française sur le site du Vatican est erronée parce qu'elle parle de don désintéressé. Malheureusement dû à un traducteur qui est le cardinal Gabriel Marie Garonne, archevêque de Toulouse. Mais c'est, en fait, quand on regarde le texte de latin, c'est sincera. Le don, il est sincère. Au sens strict, il ne peut pas être désintéressé. S'il était désintéressé, ça voudrait dire que je suis désintéressé par le bien de l'autre, par le fait de me donner à l'autre ou de donner quelque chose à l'autre. Ça voudrait dire que je ne suis pas fait pour aimer et être aimé. Et donc, je suis fait pour le contraire.
Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle du corps, parce que c'est une pensée qui s'inscrit, qui se vit dans le corps. En tout cas, c'est ce qu'on découvre quand on lit des ouvrages de vulgarisation, donc dans la fameuse théologie du corps de Jean-Paul II. Est-ce que vous nous expliquez ce que Jean-Paul II a apporté ou précisé quant à la pensée de l'Église et à la place du corps dans le don ?
Alors, il est sûr que tout acte passe par mon corps et tout acte de don, évidemment, passe par mon corps. Et il suppose cet acte, on l'a vu, il suppose ma connaissance. Cette connaissance, elle passe aussi par mon corps. Je connais à travers mes sens. Parce que je touche quelque chose de plat et de lisse, je sais immédiatement que c'est plat et lisse, même si ma connaissance est très confuse. De là, on peut dire que ma connaissance, elle passe par mon corps. Ma liberté aussi, elle passe par mon corps. Certes, en tant que tel, les philosophes peuvent dire que l'acte de vouloir et de s'engager est un acte spirituel. Néanmoins, ma liberté passe par mon corps. Vous voyez ma taille, Emmanuel, je ne suis pas aussi grande que vous et je ne gagnerai jamais les Jeux Olympiques en course à pied. Je n'ai pas la liberté de gagner les Jeux Olympiques en course à pied parce que je suis de trop petites jambes et que j'ai des fibres musculaires de type 2 ou de type 1, enfin pas celles qu'ont les Kenyans qui raflent tous les prix. Voilà, j'ai pas cette liberté-là. Parce que mon corps limite ma liberté. Il permet ma liberté, mais il limite ma liberté. Et mon corps, donc ma liberté, elle est corporelle. Je peux même dire qu'elle est filiale, parce que ce corps, je l'ai reçu de mes parents.
Alors, donc la liberté et le don passent par le corps.
Oui.
Et il va dire... Il se vit par excellence dans l'amour conjugal. Donc j'ai souvenir, l'expression n'est pas précise, mais que Jean-Paul II a plusieurs fois donc dit que la manière dont Dieu se rendait le plus présent sur terre, en dehors de l'Eucharistie, c'était donc dans l'union de l'homme et de la femme. Alors expliquez-nous ce que ça signifie. Comment le corps peut devenir, on va dire, un tel lieu de, j'allais dire, presque de contemplation ou en tout cas de révélation.
Oui,
de l'amour.
Vous avez tout à fait raison quand vous parlez de contemplation. Le don sponsal, il engage...
Le don sponsal, c'est quoi, juste?
Don sponsal, c'est le don des époux, justement, dont vous venez de parler. Donc, je vous disais qu'il y a un amour utile, un amour de bienveillance, où je veux le bien de l'autre, et le bien de l'autre devient mon propre bien, ce qui est le fondement d'une communauté, parce que c'est comme ça qu'il y a communion des personnes. Il ne peut pas y avoir communion des personnes sans l'amour de bienveillance, parce que sans cela, il n'y a pas de bien qui soit commun à l'un ou à l'autre. Donc l'amour de bienveillance est vraiment le fondement de la communauté. Et l'amour sponsal est encore en plus, évidemment, parce qu'il est le fondement de la famille. Il inclut cet amour de bienveillance, mais il demande quelque chose de plus, le don de soi à une personne qui a été choisie. Et si je me donne tout entier à quelqu'un, c'est exclusif. Je ne peux pas reprendre ce que j'ai donné pour le donner à quelqu'un d'autre. Et je me donne tout entière, donc tout entière, c'est corps et âme. On dira en gros mots philosophiques, illémorphiquement. Et illémorphiquement, corps et âme, il faut, pour qu'il y ait amour réel, que l'aimé soit dans l'aimant et l'aimant dans l'aimé, comme le dit Thomas d'Aquin. Donc cet acte d'amour, le don sponsal tout particulièrement, passe par mon corps de manière toute particulière.
Et est-ce Jean-Paul II qui le premier a dit, parce que cette expression que je reprenais pas mot à mot, que c'est la, on va dire, la plus grande manifestation de l'amour de Dieu sur Terre, en dehors de
l'Eucharistie. C'est sûr que pour Jean-Paul II, ce don sponsal, il est paradigmatique de tout amour. Ça veut dire qu'il est le premier exemple de l'amour, l'amour au plus haut point. Et on en parlera aussi de don sponsal pour lui dans l'union mystique. Alors, je ne sais pas si c'est le premier à avoir dit cela, hein. Mais de fait, il a passé une partie de sa vie à le manifester avec le plus d'évidence. Et on peut comprendre cela en reprenant une image qui est donnée par Jean de la Croix, une image dont Jean-Paul II parle dans sa thèse, Wojtyła plutôt, parle dans sa thèse sur la foi selon saint Jean de la Croix. Cette image, c'est celle de la vitre et la lumière. Nous sommes comme une vitre, nous dit Jean de la Croix, et Dieu est lumière. Si nous nettoyons notre vitre, la lumière va pouvoir s'y refléter et réchauffer. Et ainsi, dans l'amour sponsal, si nous pouvons recevoir l'amour de l'autre dans notre vitre, si nous l'avons nettoyé, et faire que l'amour de Dieu, l'amour que nous recevons, passe aussi par nous-mêmes. Et ainsi, la communion des personnes humaines participe de la communion des personnes divines. Toutefois, ce que je dis, cette participation, c'est une participation qu'on appellerait en philosophie analogue.
C'est-à-dire la lumière passe, mais nous ne sommes pas la lumière.
Nous ne serons jamais la lumière, mais cet acte de nettoyer notre vitre et de vouloir que la lumière qui nous est donnée, vouloir la recevoir et vouloir la transmettre, c'est bien notre acte libre. On n'est pas dans du panthéisme ou du pananthéisme où la lumière de Dieu passerait à travers nous comme ça, sans que nous ayons rien à y redire.
On va faire une première pause au Turami, et puis pour ceux qui par hasard nous quitteraient maintenant, il y en a certains qui arrivent au travail à cette heure-ci, on peut dire entre autres que eh bien, tout cela on peut le recevoir, entre autres dans le cadre donc du certificat universitaire donné par la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse, qui s'appelle Anthropologie et éthique fondamentale, et pour ça il suffit d'aller sur le site internet de l'Institut catholique de Toulouse ou de les appeler. On fait une première pause et on vous retrouve. On va parler toujours à propos du don et de la pensée de Jean-Paul II, des différences hommes-femmes quant à la manière de vivre ce don, accueil ou initiative du don.
Emmanuel Pella.
Le don de soi à l'école de Jean-Paul II, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Petit parcours de philosophie et de théologie donc avec Aude Surami, vice-doyen et maître de conférences. On dit doyen ou doyenne ? Vice-doyen ?
Je pense qu'on dit vice-doyen.
Allez, vice-doyen et maître de conférence à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse et spécialiste donc de la pensée de Jean-Paul II. Haute sur amie, on va parler donc des différences hommes-femmes. J'aurais une première question toute simple. À une époque où la différence homme-femme ne va plus forcément de soi, y a-t-il un fondement, on va dire, philosophique et même plus théologique à la différence homme-femme? Dieu a-t-il un regard, un plan ou une intention différente à l'égard de l'homme et de la femme? Est-ce qu'on peut penser à partir de ça?
Oui, bien sûr. Alors évidemment, on le trouve dans le texte de la Genèse et Jean-Paul II, dans sa théologie du corps, va l'expliquer à partir du texte de la Genèse. Mais ce qu'on trouve dans le texte de la Genèse, on le retrouve aussi dans l'observation naturelle. Et c'est peut-être celle-ci sur lequel il faut s'appuyer dans un premier temps. Si on regarde l'homme par rapport à la femme dans la relation conjugale, il y en a un qui prend l'initiative du don, et l'autre qui se trouve au terme du don, et qui se trouve, on pourrait dire, qui est plus du côté de l'accueil du don. Mais je redis bien, pour qu'il y ait don, il faut ces deux choses. Donc se trouver du côté de l'initiative du don ou de se trouver du côté de la réception du don est tout aussi important pour qu'il y ait don. Et c'est pas seulement celui qui reçoit qui doit dire merci à l'autre, mais c'est celui qui donne qui doit dire merci à l'autre de recevoir. Donc tout don d'ailleurs, le donneur et le receveur devraient se dire mutuellement merci.
Alors juste, vous dites qu'on peut partir pas seulement donc du texte de la Genèse, mais aussi de l'expérience, de l'expérience de la vie ou l'expérience donc de la vie conjugale. Mais parfois les choses sont plus nuancées que ça. Enfin voilà, il y a aussi des femmes qui demandent à leur mari la main de leur homme. Bref, les choses sont plus complexes.
Oui, mais dans la relation conjugale, c'est quand même le sexe de l'homme qui pénètre celui de la femme. Et il peut pas, l'inverse ne fonctionne pas. Et pour Jean-Paul II, ça, c'est le langage du corps qui exprime la vérité de ce que nous sommes. Et ce que nous retrouvons dans ce langage du corps, qu'on voit dans l'union conjugale, là où on voit le plus l'homme et la femme dans leur nudité l'un face à l'autre, évidemment, on le retrouve dans le texte de la Genèse, où Jean-Paul II explique que Dieu donne la femme à l'homme. Alors, Dieu n'a pas tous les pouvoirs, il faut que la femme soit d'accord. Il faut qu'elle se reçoive elle-même comme don de Dieu pour entrer dans ce cercle où elle est donnée à l'homme. Et l'homme, pour le coup, là, se trouve au terme de la réception du don. Et s'il reçoit ce don de Dieu, il prend l'initiative de se donner lui-même. Et Jean-Paul II explique, nous montre que l'homme se trouve à l'initiative du don, même s'il reçoit, il reçoit de Dieu la mission de prendre l'initiative du don. Parce que physiquement, s'il ne prend pas l'initiative du don, il ne se passe rien. Et la femme, elle est plus du côté de la réception du don et du point de vue de Dieu qui veut la donner à l'homme. Mais ça suppose qu'elle s'accepte, qu'elle se reconnaisse elle-même comme don de Dieu pour l'homme. Et se déroule alors entre l'homme et la femme un cercle, lorsque toutes les choses se passent bien, un cercle vertueux où l'homme reçoit la femme comme don de Dieu. Il prend l'initiative de se donner à elle, ce qui veut lui dire « tu es belle, tu es un don de Dieu ». La femme se connaît alors plus comme un don de Dieu, se reconnaît d'abord sa beauté. Donc si elle se connaît mieux, elle peut mieux se posséder. Et si elle se possède mieux, elle va pouvoir davantage se donner à l'homme, qui va pouvoir davantage la recevoir et avoir envie davantage de se donner à elle. C'est un cercle vertueux. Évidemment, le cercle peut devenir vicieux dans certains cas.
Est-ce qu'on peut s'arrêter donc un peu plus longtemps sur la femme, on va dire, plus versée donc du côté de l'accueil du don? Vous dites que il y a comme un préalable, c'est qu'elle doit elle-même se recevoir comme un don. Donc, on va dire, ce qui est premier, c'est la relation qu'elle a à Dieu. Elle se reçoit comme un don parce qu'elle se voit comme ça, on va dire, dans le regard de Dieu. Et alors, oui, après, du coup, elle peut, entre guillemets,
oui, mais de toute façon, offrir cela. Si j'aime quelqu'un, je veux lui donner quelque chose de bon. Et si je ne m'aime pas moi-même, et si je ne pense pas que je suis un don pour les autres, je peux pas donner quelque chose qui n'est pas bon si j'aime quelqu'un d'autre. Donc, forcément, il faut se recevoir comme un don pour pouvoir se donner. Ce que je dis peut sembler un petit peu caricatural, c'est-à-dire que l'homme, on a l'impression, serait juste du côté de l'initiative du don, et la femme juste du côté de la réception du don, ce qui est complètement faux, parce que à chaque fois que nous posons un acte, nous trouvons du côté de l'initiative, et la femme prend l'initiative de recevoir le don, et elle va apprendre de l'homme aussi cette faculté d'initiative avec laquelle l'homme est plus familier, et l'homme va apprendre de la femme cette faculté de réception du don avec avec laquelle la femme est plus familière. Ce qui est c'est juste une familiarité. On a l'impression, quand on lit Jean-Paul II et commentant ce texte de la Genèse, que Dieu donne à la femme, à son image et à sa ressemblance, d'être du côté de l'accueil du don, et à l'homme d'être plutôt du côté de l'initiative du don, d'avoir une plus grande familiarité à cela. Et ce que Jean-Paul II dit, c'est que ça ne va pas concerner seulement le domaine de l'amour sponsal. C'est qu'en fait, c'est tout notre être qui est ainsi conçu. Nous sommes complètement... notre âme et notre corps sont forment une seule personne, et ce qu'exprime notre corps, c'est ce que nous sommes profondément. Et je pense que c'est à réfléchir dans notre société. La femme a une familiarité, une facilité plus grande avec la compréhension de l'accueil du don, l'homme une facilité plus grande avec l'initiative. Et donc ça, c'est dans tous les domaines et pas seulement...
Alors je vais vous citer, pour que vous puissiez expliciter davantage, je vais vous citer, puis vous-même vous citez saint Thomas d'Aquin, si je ne me trompe pas. L'homme, lui, est à l'initiative du don, qui innove, qui prend des risques, qui va de l'avant. Peut-être la femme a-t-elle davantage vocation à faire que les cœurs ne restent pas durs et congelés, mais se liquéfient les uns les autres afin qu'on puisse y pénétrer, afin que l'aimé soit dans l'aimant et l'aimant dans l'aimé. Qu'est-ce que ça dit aussi au-delà de la vie conjugale, justement, on va dire sur les caractéristiques sociales, c'est le mot est mal choisi, mais ce que chacun a apporté au-delà de la vie conjugale, donc dans les différents cercles de la vie que sont la vie familiale ou la vie sociale et élargie.
C'est vrai que beaucoup de femmes attendent que des hommes prennent des initiatives. Et la femme a un certain talent pour faire, une fois que l'initiative est prise, pour la faire circuler, pour préparer les cœurs à recevoir ce qui a été donné. Que la femme rende... prépare les conditions du don et de la réception du don.
Alors il y a autre chose sur lequel vous vouliez revenir ce matin, c'est la nuit obscure. Alors la nuit obscure, c'est une expression de Jean de la Croix que vous avez cité tout à l'heure, donc carme, grand auteur spirituel. Mais c'est, semble-t-il, donc une réalité que Jean-Paul II, entre autres, donc une manière de qualifier l'amour, parce qu'on entend dans tout ce que vous dites que ça peut faire écho dans notre cœur, mais notre expérience quotidienne est parfois bien plus compliquée. Qu'est-ce que c'est que cette nuit obscure ou cette nuit de l'amour, Tsurami?
Alors, si prenons un exemple. Un amoureux, et on lui dit, mais vous connaissez votre amoureuse, vous la comprenez? Bien sûr, je la comprends. Votre fiancée? Oui, c'est ma fiancée, je la connais. Voilà. Cette personne va se marier, et on lui dit, vous connaissez votre femme? Il va lui dire, oui, je la connais, évidemment, c'est ma femme, je la connais même au sens biblique du terme, qui signifie l'union d'amour. Et puis, on va revenir 2 ans après, et puis on va lui dire, vous connaissez votre femme? Vous la comprenez? Il va vous dire, je ne sais pas trop, non, j'y comprends pas grand-chose et j'y comprendrai jamais rien. Et on va se dire, là, c'est sûr, il va vraiment commencer de l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu, en fait, que sa femme était un mystère d'amour tellement lumineux que les capacités rationnelles de son intelligence étaient aveuglées. Et comment il va rejoindre sa femme? Il va la rejoindre justement dans cet aveuglement. Il y a tellement de lumière qu'il est dans la nuit, et il va rejoindre son mystère d'amour. C'est ce que Grégoire le Grand expliquait en nous disant « amor ipse notitia est », c'est-à-dire l'amour même qui devient connaissance, qui prend le relais de la raison, qui ne peut pas rejoindre l'autre suffisamment.
Parfois, ça se vit de manière plus triviale. On ne voit pas tout de suite la lumière. Parfois, on voit d'abord l'obscurité. Mais c'est voilà, une mais belle voilà. manière
Donc,
d'inverser les choses et de renverser la perspective.
Donc, messieurs, vous aurez compris quelque chose ce soir quand vous rentrerez chez vous. Vous direz à votre femme, ça y est, j'ai compris pourquoi je ne te comprends pas.
Quel mystère lumineux.
C'est un mystère tellement lumineux que les capacités rationnelles de mon intelligence en sont aveuglées. Mais soyez rassurés, messieurs, ça marche dans les deux sens. Nous n'y comprenons pas grand-chose. À la masculinité.
Alors, dans cette nuit obscure, est-ce que Jean-Paul II donne des clés ? Il ne s'agit pas de transformer ça en une émission sur la vie conjugale, mais on imagine que quand il qualifie la nuit obscure, l'amour permet justement de rentrer dans cette nuit, d'avancer dans ce tunnel parfois ou...
Voilà, c'est justement... Alors, il en parle pas directement, c'est en analysant ces textes qu'on le comprend. Mais effectivement, c'est l'amour justement qui permet de rejoindre l'autre. Si je prends un autre exemple, vous pouvez dire à quelqu'un, lui attribuer des tas de qualificatifs, il est généreux, il est un peu caractériel, des choses qui vont ne correspondre peut-être véritablement, lui correspondent véritablement et peut-être ne correspondent véritablement qu'à lui. Mais si vous lui dites « tu es tout ça », il va se sentir enfermé dans des petites boîtes et se dire « oui, c'est vrai, peut-être que je suis tout ça, mais je suis quand même bien plus que ça ». Et je suis un mystère parce qu'il est d'un mystère d'amour et qu'il le sent, même s'il n'a pas les mots pour le dire, et qu'il doit être aimé, évidemment, en raison de ses qualités, mais parce qu'il est le plus profondément, parce qu'il est fait pour être aimé et aimé par son mystère d'amour. Et il doit être rejoint non seulement par la raison, mais la raison ne peut le rejoindre profondément. C'est l'amour qui va pouvoir l'atteindre.
Donc
c'est ce que nous enseigne Jean-Paul.
Donc en réponse à ma question qui était comment on fait pour avancer dans cette nuit obscure, vous laissez entendre qu'en fait, à un moment, il faut accepter d'être quelque part, d'être désarmé en fait, et de se dire
Il faut accepter de ne pas comprendre. Ça me semble d'ailleurs une chose nécessaire pour pouvoir s'engager dans le mariage. C'est reconnaître que ma raison ne pourra jamais comprendre l'autre et qui dépasse ce que je peux en comprendre. C'est une connaissance minimum à avoir de l'autre, c'est que l'autre dépasse ce que je peux en connaître rationnellement et qu'il réclame mon amour.
Au-dessus, Ami, comme on a un petit peu de temps dans cette deuxième partie, j'aimerais qu'on revienne ou on va dire remettre en perspective tout ce qu'on vient de dire sur l'homme et la femme. Donc la femme accueille du don, l'homme initiative du don, cette manière de s'aimer qui un jour conduit à cette nuit donc. Qu'on parle de, on va dire de ceux qui vivent le don, qui vivent l'amour, mais qui, parce que les circonstances de la vie ne l'ont pas permis, ou parce que l'être cher est parti, qui vivent cela de manière, on va dire, plus blessée, sans vouloir être, on va dire, blessant justement avec certains auditeurs. Toute la première partie nous avait expliqué, si j'ai bien compris, que le don se vit à travers le corps, avec le corps, par le corps, quid des personnes qui ont des corps qui sont blessés, qui ont des corps par exemple qui parfois ne peuvent pas justement aimer ou donner la vie.
Merci de cette question parce que évidemment ce que je viens de dire pourrait sembler assez utopiste et même la pensée de Jean-Paul II pourrait paraître assez utopiste lorsque il dit que le corps est le signe qui se transmet efficacement dans le monde visible, le mystère invisible de l'homme-personne. Il parle du corps comme d'un sacrement, comme de ce signe qui transmet. Un sacrement, c'est le signe qui transmet dans le monde visible un mystère invisible. Et effectivement, nous sommes tous blessés et nos corps sont tous blessés. Il y a des tas de blessures, il y a des handicaps. Comment celui qui n'a pas de bras et pas de jambes pour courir vers l'être aimé va faire pour aimer si j'aime avec mon corps? Comment va-t-il faire s'il n'a pas de larmes pour pleurer? Comment celui qui physiquement ne pourra pas faire que l'aimé soit dans l'aimant et l'aimante dans l'aimé va-t-il faire pour aimer? Et on peut se demander, est-ce que la théologie du corps et la philosophie du corps de Jean-Paul II, ce sont une philosophie, une théologie pour les top modèles parfaitement sains, S-A-I-N, et sains, S-A-I-N-T. Est-ce qu'il est vrai, comme le dit le philosophe Eric Fiat, qu'un peu d'incarnation, ça ne peut pas faire de mal? Enfin, c'est absolument dramatique.
La réponse
est... Jean-Paul II va nous montrer que l'amour va passer par nos limites, l'amour va passer par nos blessures, que cette vitre que nous sommes, cette vitre dont nous parle Jean de la Croix, c'est pas une vitre de l'époque contemporaine, c'est une vitre du XVIe siècle, une vitre qui laisse très peu passer la lumière.
Alors juste à quoi ça ressemblait une vitre du XVIe siècle?
Justement, une vitre qui laisse très peu passer la lumière, très peu translucide, avec plein de petites bulles, et en fait la lumière va passer par les défauts du verre. Et on peut dire que cette vitre, notre vitre, c'est une vitre brisée, et qu'elle est devenue un diamant. Et par qu'est-ce qui fait le diamant? C'est qu'un petit caillou. Si la lumière passe pas à travers, c'est pas ça, rien de merveilleux. Et justement, la lumière passe à travers les entailles de ce diamant.
C'est bien un exemple.
Et j'ai j'ai un exemple. Par exemple, si on prend, je vais pas bien un soir. J'ai deux amis. Un est un sportif de haut niveau et l'autre est une personne gravement handicapée. Ils me disent, tu vas pas bien, on vient te voir. Je peux pas dire que l'un m'aime plus que l'autre, mais ce que je sais, c'est que le sportif de haut niveau va prendre ses baskets, courir dans la rue, monter les escaliers chez moi. Ça, il va être très facilement chez moi. L'autre, la personne handicapée, va descendre de son immeuble, va prendre le bus, va prendre peut-être plusieurs bus. Il va devoir monter chez moi. Chez moi, il n'y a pas d'ascenseur. Il va devoir monter les escaliers. Il va venir me voir parce que je ne vais pas bien. Je ne sais pas si l'un m'aime plus que l'autre. Ce que je sais, c'est que l'amour est beaucoup plus manifeste chez la personne handicapée, qui est beaucoup plus limitée que le sportif de haut niveau.
Voilà, image très parlante. On va faire une deuxième pause au Turami, et puis on va clore cette émission. Vous allez nous parler on va continuer à filer l'image de cette vitre et de l'amour humain comme lieu de la révélation ou lieu de vie de la miséricorde de Dieu.
À Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le don de soi à l'école de Jean-Paul II, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Comme invité au Turami, vice-doyen et maître de conférence de la faculté de philosophie et de l'Institut catholique de Toulouse, et donc spécialiste de la pensée de Jean-Paul II. Me vient une question très triviale, puisqu'on a un petit peu de temps, Haute-sur-Amie. Comment on devient spécialiste de la pensée de Jean-Paul II ? C'est, un jour, vous êtes tombé sur un livre de Jean-Paul II, et puis ça a été le coup de cœur, et après, vous avez décidé d'y dédier votre vie professionnelle ?
Un jour... Je comprenais pas exactement les positions de l'Église sur la contraception. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais j'arrivais pas bien à dire quoi. Et tout simplement, j'ai fait une dissertation de philosophie, en bonne étudiante de philosophie, sur la contraception qui m'a amenée à lire Amour et responsabilité de Carole Wojtyła. Et là, j'étais absolument fascinée par sa pensée. Et j'ai voulu continuer de l'étudier. J'ai pas pu m'arrêter.
Oui, vous n'avez pas pu vous arrêter puisque donc vous avez soutenu une thèse intitulée « La voie de l'amour » et donc qui a été publiée par l'Institut pontifical Jean-Paul II à Rome. Et puis ça continue aujourd'hui puisque maintenant vous enseignez cette pensée, entre autres dans le cadre de l'Institut catholique de Toulouse à la faculté de philosophie. Il y a une grande réalité, ça va sans dire, quant à cet amour que vous décrivez, qu'il soit vécu soit de manière conjugale ou pas, cet amour ce don dont vous nous avez donné les grandes lignes et puis la manière dont il peut être vécu, c'est que tout à chacun on fait l'expérience qu'il est blessé et qu'il est limité. C'est vrai qu'on peut se dire à vous écouter que c'est magnifique, mais avoir du mal à le faire sien. Dites-nous comment Jean-Paul II redit cette réalité de l'amour blessé.
Déjà, tout simplement, avant l'amour blessé, c'est l'amour limité. C'est par mes limites que j'aime. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ma raison, elle est limitée. Elle ne peut pas rejoindre complètement l'autre. Elle peut pas. L'autre est un mystère qui dépasse ses capacités. Et donc, c'est en reconnaissant ces limites que j'arrive à aimer davantage. Et donc, l'amour est très lié aux limites de mon corps. Les limites de mon corps qui permettent, qui limitent ma liberté, mais aussi qui la permettent. Et donc, ces limites peuvent entraîner à un amour supérieur. Le monde de la souffrance est un monde où le corps humain, où l'être humain tout entier est encore plus limité qu'il ne devrait l'être. Et finalement, ces limites peuvent être l'occasion d'une manifestation supplémentaire d'amour, comme dans l'exemple du sportif de haut niveau et de la personne handicapée que je vous ai donné tout à l'heure.
On avait une émission récemment avec Thierry Marmet, qui est fondateur des soins palliatifs aussi. On pourrait dire que voilà, dans les soins palliatifs, il y a aussi un amour qui se manifeste là où on ne penserait pas et là où le corps est affaibli plus jamais.
Et alors, cet amour, il passe par nos limites. Il passe par nos limites jusqu'à la mort. Dans la boutique de l'Orfèvre, on nous parle de deux personnes.
Donc, c'est une pièce de théâtre de Jean-Paul II, Karl Voutilin.
Deux personnes qui se marient, Thérèse et André. Et André va mourir à la guerre. Et le corps nous dit, Jean-Paul II, la pensée passe par lui, mais elle ne s'y accomplit pas. Et finalement, on voit que chez Thérèse et André, l'amour va continuer. Après la mort. Parce qu'on voit que cet amour est plus fort que la mort. Et Jean-Paul II nous en parle dans le livre, en commentant le livre d'Utopie. Le mystère de la personne se manifeste à travers celui de la vie et de la mort, et peut-être encore plus dans celui de la mort. Parce qu'on voit qu'on se rend compte à quel point l'amour est fort, l'amour ne passe pas, l'amour est plus fort que la mort. Et je vais vous donner un autre exemple, l'exemple d'un médecin qui reçoit dans son cabinet un adolescent complètement renfermé sur lui-même, dépressif parce qu'il avait perdu sa grand-mère. Et le médecin lui dit, mais vous ne croyez-vous pas que l'amour que vous avez pour votre grand-mère et que l'amour que votre grand-mère a pour vous est plus fort que la mort. L'adolescent a regardé le médecin avec des grands yeux. Il est reparti, guéri et joyeux, sans antidépresseur.
C'est une histoire vraie ou
c'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie qui dit cet amour voilà plus fort que la mort. Il y avait une autre expression d'ailleurs que vous utilisiez dans les fiches que vous m'avez fait suivre. Bon bref, je la retrouve pas. Si on doit retourner sur l'image de la vitre, peut-être prenez le temps de la réexpliciter un tout petit peu au début. Dieu est la lumière, nous sommes la vitre. Y a-t-il vous l'avez un peu explicité au long de l'émission, hein, mais y a-t-il une lumière particulière que tout à chacun est appelé, on va dire, à laisser passer, qui est celui de la miséricorde de Dieu? Expliquez-nous comment Jean-Paul II nous invite à laisser diffuser cette lumière.
Ben, l'amour de miséricorde, c'est justement cet amour qui va nous rejoindre jusqu'au plus profond de notre misère. C'est cet amour qui va passer par les entailles de la vitre brisée, qui va passer par les entailles du diamant et rayonner. Et on voit qu'il rayonne, qu'un diamant rayonne parce que la lumière passe justement surtout par le lieu de ses entailles et le lieu de ses blessures. C'est la puissance qui se déploie dans la faiblesse, comme le dit saint Paul.
Est-ce que vous pouvez prendre des exemples, justement? Est-ce qu'on peut prendre comme premier exemple Jean-Paul II lui-même? Je rappelais dans le teasing de l'émission quand même quelques-unes des réalités de sa vie. C'est quelqu'un qui a été taillé par la vie et qui a fait l'expérience de la douleur, de la souffrance, du mal très jeune.
Il a fait l'expérience de la souffrance, l'expérience de la perte. Il n'a jamais connu sa sœur qui est morte avant sa naissance. Il a perdu sa mère à l'âge de 9 ans. Il perd ensuite son frère qui décède pour avoir soigné une patiente atteinte de la scarlatine, et il est lui-même contaminé. Il perd ensuite son père.
Et à 21 ans, c'est ça ?
Oui, à 21 ans. Mon père l'a... C'était la seule personne qui me restait, et il a tout perdu en fait. Il voit certains de ses professeurs fusillés, d'autres déportés au camp de concentration de Sachsenhausen. Il voit ses amis disparaître. Il se demande pourquoi lui n'est pas mort. Il voit ensuite, après le nazisme, le communisme, les déportations de certains de ses amis au goulag. Oui, on peut dire que la vie l'a entaillé.
Et la miséricorde, comment est-elle rentrée là-dedans? Vous
Et la miséricorde,
bien sa vie,
évidemment... La miséricorde, elle a jailli, je pense, au lieu des plus grandes misères. Wadowice, la ville de sa naissance, était à 15 km d'Auschwitz. Cracovie à 30 km d'Auschwitz, le lieu aussi de la révélation de la Sainte Miséricorde à Sœur Faustine et à l'humanité via Sœur Faustine. Donc l'amour de Dieu, elle va passer à travers ces terreurs et finalement... Je crois qu'elle nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. C'est toutes ces blessures, c'est comme des petites morts qui vont révéler un amour, toujours un amour, plus fort que la mort, plus fort que nos misères. On pourrait prendre d'autres exemples. Hein. L'amour, vous voyez, l'amour de Mère Teresa pour les plus pauvres se manifester au milieu d'une très grande misère.
Pour finir, je voulais qu'on parle de l'amour jusqu'à l'héroïsme. Ça parlera aussi à certains. L'actualité nous l'a rappelé ces derniers temps. Je pense à certaines morts héroïques, hein, du Père Hamel, mais pas seulement, où les Français ont comme touché du doigt quelque chose de grand. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce sujet? On va dire, l'amour est-ce une condition de l'amour que d'être appelé parfois à l'héroïsme?
L'amour peut appeler à l'héroïsme, c'est-à-dire que si je me donne, notamment l'amour de sponsal, si je me donne à quelqu'un, c'est irrévocable, comme on disait au départ, et les conditions peuvent faire que j'ai à donner ma vie pour certaines personnes et à la perdre pour certaines personnes en montrant ce qui montrera aussi que l'amour est plus fort que la mort. Il y a un exemple, je crois, qui est très parlant, c'est l'exemple de Chiara Corbella Petrillo, une jeune femme qui a eu un premier enfant malade. Elle a refusé l'avortement et cet enfant a vécu une dizaine de jours. Elle l'a enterré, mais elle lui a donné tout son amour jusqu'au bout et était heureuse de le faire. Puis un deuxième enfant rebelote, l'enfant est à nouveau malade. Elle refuse l'avortement et cet enfant vit quelques heures, si je me souviens bien. Elle tombe enceinte une troisième fois et là, l'enfant est bien portant. C'est elle qui a un cancer grave et elle refuse d'avoir la chimiothérapie immédiatement parce que la chimiothérapie pourrait porter atteinte à l'enfant. Donc elle repousse les traitements pour ne pas porter atteinte à l'enfant. L'enfant naît, elle est ensuite évidemment soignée et elle décède au bout d'un an. Donc c'est un exemple de don de soi. Et cet exemple de don de sa vie à son enfant est assez, dans d'atroces souffrances en plus, est assez frappant. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est qu'elle dit à son mari que celui qu'elle a le plus de peine à quitter, c'est lui. Donc, elle donne sa vie, elle donne tout pour son enfant, mais l'amour sponsal est montré comme encore supérieur à cet amour qu'on pourrait dire déjà fou et héroïque. Et je crois que c'est important à l'heure actuelle de le rappeler parce que l'amour sponsal, c'est comme si les enfants auraient droit à un amour inconditionnel jusqu'à ce qu'ils se marient ou là, ils pourraient être abandonnés du jour au lendemain. Non, l'amour sponsal pour cette femme qui a raccordé la Petrillo et pour Jean-Paul II est supérieur encore à l'amour d'une mère ou d'un père pour son enfant.
Pour finir, Othurami, si vous deviez nous redire en quelques mots, remettre en perspective cette citation donc, qui est de Jean-Paul II, que Jean-Paul II a cité tout au long de son pontificat, vous dites que ça revenait, ça re-revenait, « L'homme, seule créature que Dieu ait voulu pour elle-même, ne peut se trouver que dans le don sincère de lui-même ». Redites-nous en quelques mots la manière dont il faut entendre cette phrase. Je la redis, l'homme, seule créature que Dieu ait voulu pour lui-même, ne peut se trouver que dans le don sincère de lui-même.
Donc Jean-Paul II nous dit que nous trouvons notre propre bien dans le don de nous-mêmes, un don qui est sincère, un don honnête, un don qui veut le bien de l'autre jusqu'au point que le bien de l'autre devienne mon propre bien, ce qui est le fondement du bien commun, le fondement de la communauté, et plus encore dans le don de soi tout entier qui se fait dans le don des époux, le don sponsal qui pour Jean-Paul II est paradigmatique de tout amour, qui est le premier exemple et l'amour le plus fort, l'amour au plus haut point auquel nous sommes appelés. Cet amour, il se rapproche, donc il peut demander l'héroïsme et le sacrifice de sa vie. Le sacrifice de sa vie, on le retrouve parfois dans d'autres dons qui ne semblent pas sponsals, mais qui semblent mimer ce don sponsal. Et qui sont des dons miséricordieux aussi, qui rejoignent l'autre jusque dans sa misère. La mort est une misère, et puis il y a des tas d'autres misères. Jean-Paul II le savait. Il savait le don qu'avait fait le père Maximilien Kolb à Auschwitz, dans la terreur des camps. Et il parle de cet acte de don de soi par amour, ces actes de don de soi par amour, qui ont fortifié l'humanité en la défendant de la déshumanisation.
Voilà, le père Maximilien Kolb, donc, était un franciscain qui, en camp de concentration, a proposé de donner sa vie à la place d'un père de famille qui devait être exécuté. Merci beaucoup, Othurami, d'être venu ce matin pour nous aider à rentrer dans cette pensée qui est celle de l'Église et qui était celle donc, de Jean-Paul II, qui est celle de Jean-Paul II dans la foi. Pour ceux qui auraient trouvé ça bien trop court, eh ben, on les renvoie vers soit le certificat universitaire donné par la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse anthropologie et éthique fondamentale, voire même plus ambitieux, licence canonique, philosophie et anthropologie de
la personne.
Donc toujours à l'Institut catholique de Toulouse, le site internet ict-toulouse.fr. Merci beaucoup Aude.
Merci Emmanuel, merci à tous.
Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.